les chemins de traverse, escapade à Belle-Île en mer, une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Dans cette série des chemins de traverse, je vous emmène pour une escapade sur l'aînée des îles du Ponant. Bonjour et bienvenue pour une visite insolite de la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île en mer. Depuis l'épisode précédent, nous sommes sur la côte sauvage à Port-Coton, et plus précisément maintenant, au hameau de Kervilawen, où se trouve le grand phare de Belle-Île, ou encore le phare de Goulfar. Phare où nous sommes en compagnie d'un de ses gardiens, Michel Granger. Michel Granger nous a expliqué comment il est devenu gardien de phare. Enfant du pays, il est gardien à Belle-Île depuis 1987, et il a commencé à nous expliquer son rôle de gardien de nos jours. Suite de cet entretien.
Alors, avant, on faisait de la. Quand il y avait une panne de nuit, notre rôle était d'aller dépanner immédiatement ou le plus rapidement possible, en tout cas, les établissements tombés en panne, quand ils étaient accessibles par la terre, bien sûr. Hein. Certains étaient en mer.
Oui, parce qu'il y en a qui sont quand même sur le Morbihan, qui sont en pleine mer.
Oui, on en surveille deux qui s'appellent le phare de l'Athénios et le phare des Grands Cardinaux. Ce sont des établissements qui ont été gardiennés. Il y a quelques décennies maintenant, et c'est important de savoir si ces phares qui ont un rôle de sécurité pour la navigation fonctionnent bien. Donc ces établissements sont alimentés par panneaux solaires aujourd'hui, hein, c'est de l'énergie douce. Avec notre télécontrôle, on connaît à distance l'état de charge des batteries. Donc si l'hiver, par exemple, il n'y a pas suffisamment de soleil, et comme les nuits sont très longues, il y a beaucoup de consommation, pour compléter la charge batterie qui peut ne pas être suffisante, nous avons des groupes électrogènes dans ces phares que nous mettons en marche par télécommande en trois clics de souris à partir d'ici. Voilà, et on sait à distance la tension de la batterie et on peut faire du contrôle comme ça sur les établissements à distance. Quoi.
Donc le métier s'est complètement transformé depuis le moment où vous avez démarré.
Oui,
c'est plus tout le même métier, je dirais presque.
Pas du tout, non.
Ça ne peut rien avoir.
Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que quand j'ai débuté, il y a un petit phare à Belle-Île qui s'appelle le phare de Cardonis.
Construit de 1877 à 1879 sur la pointe sud-est de Belle-Île, le phare de Cardonis signale l'entrée sud des courreaux de l'île, les courreaux étant les sinuosités entre des bas-fonds et des roches que le recouvrent. Son architecture est constituée de deux maisons blanches reliées par une cour fermée. Une tour carrée surmontée d'une lanterne est accolée à la construction principale. Le dernier gardien et sa famille ont quitté le phare en 1983.
Quand j'ai débuté le phare de Cardonis, il marchait encore avec à vapeur de pétrole. Donc c'est un feu qui marchait à pétrole. Et aujourd'hui, en trois clics d'ordinateur, je commande les phares qui sont situés à 50 km à la ronde, y compris les groupes électrogènes. Donc on voit qu'il y a une évolution quand même assez intéressante et surprenante. Ouais.
Donc en fin de compte, le gardien de phare, sans être péjoratif, est devenu un peu bureaucrate. Enfin, il est derrière son ordinateur, là. Et puis c'est la supervision.
Bureaucrate, technicien. Ouais. Enfin, notre génération, moi j'ai 57 ans, donc ça fait pas mal d'années que je suis dans le métier.
Oui, tout connu.
On est un petit peu maniaque. On aime bien la propreté, on aime bien que nos optiques de phare soient bien entretenues, donc les cuivres, tout ça.
Vous montez là-haut ?
On monte encore faire l'entretien de tout ça, comme faisaient les anciens. Bon, c'est vrai que ça se perd un petit peu parce qu'il y a de moins en moins de personnel et que les gens, quand ils passent dans un phare, occasionnellement, c'est pour de la maintenance technique plus que pour de la propreté. Donc nous, on essaye encore de garder ce côté un peu militaire, un peu propre. Qu'on a connu au début de notre carrière.
Vous avez débuté, c'était comme ça.
Oui, parce qu'il y avait du monde dans chaque phare et quand il y avait des inspections ou que le patron passait, il fallait quand même présenter quelque chose de très propre et bien entretenu. Tout à fait, oui.
Les chemins de traverse, escapade à Belle-Île-en-Mer.
Entretien avec Michel Granger, gardien de phare à Belle-Île-en-Mer.
Alors, à Belle-Île, il y a combien de phares en tout ?
Alors, il y a le phare de Goulfar est le principal. Il y a deux phares de moyenne taille aux deux extrémités de l'île. J'ai parlé tout à l'heure du phare de Cardonis qui se situe à l'extrémité sud-est de l'île. Et il y a le phare de la Pointe des Poulains à l'extrémité nord-ouest de l'île.
Construit en 1867, le phare des Poulains, situé à l'extrémité nord-ouest de Belle-Île, n'est accessible qu'à marée basse. La pointe dont il porte le nom est un site stratégique fortifié sous Napoléon III. Le dispositif militaire est renforcé en 1859 par la construction d'un corps de garde. Son faisceau lumineux d'une portée de 42 km signale aux navigateurs le danger que représentent les récifs et îlots qui bordent la côte nord-ouest de l'île. Inoccupé depuis 1987, le rez-de-chaussée du phare est aujourd'hui ouvert au public. Il propose une exposition sur les espaces naturels bellilois.
Et nous avons donc des petits feux d'entrée de port à le palais, donc deux, un vert et un rouge, et trois feux d'entrée de port au port de Sauzon. Donc ça fait un total de 8 établissements que nous entretenons. Nous faisons des tournées de préventives pour contrôler l'état des batteries, si tout se passe bien. Et puis un petit coup de peinture par-ci par-là, bien sûr, pour maintenir nos établissements en bon état, quoi.
Et le plus grand, donc, c'est celui du Goulfard.
Ouais, tout à fait, qui fait 52 mètres de haut.
52 mètres de haut. Et son rôle, alors, à lui, précisément
Alors, ce type de grand phare, comme Goulfard, ici, on appelle ça des phares de grand atterrissage. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas que les avions qui atterrissent, les bateaux qui viennent de la mer vers la terre atterrissent aussi, d'où l'appellation des phares d'atterrissage. Donc ce phare porte à 27 000 nautiques, ça fait une bonne cinquantaine de kilomètres en moyenne. Et il indiquait, avec la cadence de ses éclats, il était reconnaissable par les marins et indiquait l'arrivée sur Belle-Île 50 kilomètres avant d'arriver à toucher la côte, quoi. D'accord. Donc les bateaux pouvaient faire leur point après avoir traversé l'océan Atlantique. Par exemple, à l'époque de la marine à la voile et tout ça, il fallait des semaines et des semaines, voire des mois pour traverser l'océan. Donc quand ils arrivaient vers le littoral, ils avaient comme premier repère ces grands phares d'atterrissage qui leur indiquaient leur lieu d'atterrissage.
Justement. D'accord, et ils reconnaissaient que c'était le phare de Belle-Île ou le phare de Groix, comment?
Alors,
on continue à reconnaître comment, d'ailleurs?
Alors, chaque phare émet des signaux reconnaissables qui sont la signature du phare. Et quand les marins connaissent bien leur carte marine et leurs indications et leur métier, savent à quel phare ils ont affaire en fonction des éclats qu'ils voient devant eux, quoi. Donc celui-ci donne deux éclats groupés toutes les 10 secondes. Il y a 3 secondes d'intervalle entre les deux éclats. Ensuite, une période d'obscurité de 7 secondes. Et à nouveau 3 secondes, etc. Donc c'est la signature du phare de Goulfard. Et dans la région, c'est le seul phare à donner ce signal. Donc les marins ne peuvent pas se tromper sur l'origine du signal, quoi.
Voilà, c'est
le Goulfard. Et après, donc, quand ils approchent un peu plus du littoral, ils ont justement des phares de moindre portée et de plus petite dimension, de plus petite taille, qui leur indiquent leur trajet à suivre pour une navigation un peu plus précise. Donc je parlais tout à l'heure du phare des Poulains, du phare de Cardonis, qui permettent de contourner Belle-Île en passant par le nord-ouest, le sud-est de l'île en fonction de sa destination, quoi.
Les chemins de traverse.
Escapade à Belle-Île en mer.
Ce grand phare, là, ce phare de Goulfard, il remonte à quand exactement? Tel qu'il est à l'heure actuelle, parce que je me doute qu'il devait peut-être y en avoir un autre aussi avant, non?
Non, c'est le premier phare qui a été construit sur Belle-Île.
Michel Granger, gardien de phare.
La construction s'est terminée en 1835, il a été allumé en janvier 1836. Donc à l'époque, le phare fonctionnait avec des lampes à huile, hein, c'était toute une entreprise pour faire marcher une lumière, donc avec un premier système optique qui tournait entraîné par un contrepoids. Aujourd'hui, ce sont des moteurs électriques qui entraînent notre rotation d'optique, hein. Dans le milieu du 19e siècle, les lampes à huile ont été remplacées par des lampes à pétrole. Et le phare a été électrifié dans les années 1890, autonome bien sûr, parce que l'île n'était pas encore reliée au réseau EDF. Donc il y avait des groupes électrogènes à la base de ce phare qui produisaient de l'énergie pour faire fonctionner les lampes. Et les premières lampes électriques étaient des lampes à arc, c'est-à-dire un arc électrique entre deux électrodes, qu'on appelait des charbons. Mmh. Ce type de lampe était utilisé aussi dans le cinéma. Enfin, ça permettait d'avoir des fortes puissances lumineuses. Et les portées des phares, d'ailleurs, ont été nettement augmentées avec l'utilisation de ces lampes électriques par rapport aux lampes à pétrole ou lampes à huile qu'on utilisait précédemment, quoi. Après la lampe à arc, sont apparues les lampes à incandescence. Donc en haut de ce phare, on avait deux lampes de 3000 watts. Donc ça faisait quand même une grosse consommation électrique toutes les nuits. Ça faisait de quoi bien chauffer une belle maison, hein, 6000 watts d'énergie. Et aujourd'hui, donc, on a gardé le système optique est toujours le même. Par contre, on fonctionne avec des lampes beaucoup plus performantes. Et pour une portée égale, on a des lampes qui font 1000 watts. Une seule lampe en service. La deuxième lampe est en secours et prend le relais en cas de défaillance de la première. D'accord. Alors avec ce type de lampe de 1000 watts aux halogénures métalliques, le phare a conservé sa portée de 27 000 nautiques, donc aujourd'hui, qui est de, comme je disais, une cinquantaine de kilomètres. Un 1000 nautiques fait 1852 mètres, exactement.
Donc depuis l'origine un peu des appartements, on a créé les optiques. Depuis Fresnel, la seule évolution, enfin, si je comprends bien, qu'il y a eu au fil des années, c'est plutôt au niveau des ampoules. Au niveau de l'optique en elle-même, il n'y a pas eu de grosses évolutions.
Non, du tout, parce que ici c'est exactement le même système qui flotte et tourne sur un bain de mercure, donc il y a entre 17 et 18 litres, ce qui fait quand même 240 kg de mercure. Toute la partie tournante en haut du phare là, pèse 2,4 tonnes, c'est quand même quelque chose de très, très massif. Et cet appareil tournant a un flotteur sous le plateau qui flotte dans une cuve renfermant ce mercure.
D'accord. Et pourquoi sur du mercure ?
Parce que par la densité du mercure, on peut faire flotter des objets très lourds. Hein, c'est la fameuse théorie d'Archimède. Mmh. Et c'est un petit peu comme un bateau sur l'eau. Hein, l'optique flotte sur ce métal liquide à forte densité. Et depuis son existence, tourne toutes les nuits et n'a pas pris un millimètre d'usure, parce que la rotation sur le mercure n'a pas de frottement, donc n'a pas d'usure. Donc pendant très longtemps, cet entraînement de rotation s'est fait, comme je disais aussi précédemment, par la descente d'un contrepoids et qu'il fallait remonter. C'était le travail du gardien aussi, de remonter le contrepoids périodiquement. Et aujourd'hui, donc, c'est un moteur électrique à vitesse bien précise et bien constante qui entraîne ce mouvement de rotation de l'optique pour faire tourner les faisceaux du phare.
Il a été fini en 1835. Ça fait 180 ans qu'il tourne. Est-ce qu'il a des particularités ?
Chaque phare a une architecture un peu unique. Hein. Chaque phare est un modèle unique, hein, tout à fait. Donc ce phare a été classé monument historique en 2012. Et le classement de ce phare, on espère, permettra aussi de garder cette lumière en haut du phare. J'espère que la lumière a été classée avec la pierre. Parce qu'aujourd'hui, l'utilité de ces grands phares n'est pas la même que l'utilité qu'il avait quand il a été construit. Mmh. Aujourd'hui, les navires naviguent avec le GPS, forcément. Et quand un bateau traverse l'océan, il est forcément équipé d'un GPS et sait très bien qu'il approche les côtes bretonnes. Ouais. Mais donc, on espère quand même que la lumière restera en service encore longtemps en haut de ce phare, même si c'est moins indispensable pour les marins, en tout cas, que ça l'était précédemment.
Je pense que ce serait dommage si ça fonctionnait plus, parce que je pense que quand on voit depuis la côte, pleine mer, ça va être magnifique, la nuit, là, quand on voit ces phares qui s'allument les uns après les autres.
C'est sécurisant pour les marins aussi, parce que ce qu'on a sur son GPS, sur son appareil, c'est tout à fait théorique. Et quand on regarde les phares à la côte, on peut s'assurer qu'on est bien à l'endroit que l'appareil indique. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est de permettre de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, et c'est sûr.
Bonjour. Ascension du phare de Goulphare, 1835. Date marquée à l'entrée du phare, à l'intérieur, juste avant l'escalier, et une plaque en l'honneur des ingénieurs. Allez, 247 marches.
Nous nous séparons le temps de commencer l'ascension du grand phare de Belle-Île, suite de l'entretien avec Michel Granger et de cette ascension lors de notre prochain rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.